100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 12, abstraction. Aux abords de Nerul, à Navi Mumbai, au sud-ouest de l'Inde, dans une baie bercée de lumière qui borde la grande ville de Bombay, les flamants roses se regroupent et s'unissent pour mieux résister à la tempête. Ils forment un essaim, rempart au vent violent, abolissant toute distanciation dans ce cocon protecteur. Leurs plumages se rejoignent et se confondent, étirant une large toile ondulant sous les vents, une toile protectrice qui semble les épargner des ardeurs du ciel. C'est un grand paon mauve et rose, baigné d'argent, de blanc étincelant noyé dans les reflets de l'horizon, cassant la lande verte des marais et des hautes herbes. Ces aplats de couleurs qui immobilisent les oiseaux les fichent dans un tableau à la fois symbolique et figuratif. Pour le moment, tout est encore calme, mais d'un instant à l'autre, la nature va s'éveiller, le ciel ruisseler et le tonnerre gronder, ravager le paysage et le noyer sous des colonnes d'eau fumante. Les flamands ont parcouru des centaines de kilomètres. Ils arrivent du Rajasthan et du Gujarat, au nord de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan. Certains viennent même de beaucoup plus loin encore, d'Iran et d'Israël. Ils sont plus de 150 000 comme cela à rejoindre les zones humides des abords de la nouvelle Bombay, face à la cité historique, de l'autre côté de l'estuaire. Et ce tableau en rose et blanc, encadré par le vent et bordé du gris du ciel, est un morceau de terre échappé de toute saison et de toute obligation. Un spectacle saisissant, un mouvement brusque et total qui soulève la couleur et déploie toutes les formes du décor. Les mots ont cette faculté d'écarter la couleur, de repousser les formes et d'installer de nouveaux cadres. Ils suivent les lignes les plus pures du tableau, en tracent les contours puis le colorent de leurs mille saveurs. Lorsqu'ils décrivent des vins, ils leur appliquent les mêmes contraintes, retiennent leur matière, leur structure, leur épaisseur, leur longueur. Comme les ailes des flamants roses, ils pointent la couleur et l'étalent pour mieux la répartir. Ils sont leur voix, transmettant leur intention jusqu'à nous, donnant à voir leurs formes les plus pures. Les vins sont ces paysages silencieux, sans mouvement extérieur, mais portant leur remous avec force. Parce qu'ils déplacent nos certitudes, irriguent nos esprits, élargissent nos horizons. Ce sont des toiles de maître, peintes avec fracas ou sagesse, figuratives ou abstraites, essentielles ou éphémères. Partout la couleur, partout la symétrie, le mouvement, l'élan. Mais combien savent ainsi faire passer la grâce. La précision n'est pas une forme d'art, c'est une nécessité. C'est au détour d'une visite chez Jean-Marie Guffins que ces mots me sont tombés dessus et qu'ils ont longtemps résonné dans ma tête. Jean-Marie Guffins est une figure libre, un vigneron génial à l'esprit un peu frondeur, volontiers provocateur, assurément hors de toute contrainte. Magistrat l'orfèvre du Chardonnay, il s'est installé dans le Mâconnais en 1976, arrivant de sa Flandre natale. Une terre à l'époque plus accessible que la Bourgogne, et qu'il est toujours, où il a pu déployer toute sa créativité et son talent, et surtout sa maîtrise absolue du Chardonnay. En 1997, il s'est agrandi et a mis cap au sud, au château des Tourettes, dans le Luberon. C'est là que je l'ai rencontré, lui et sa démesure, son assurance tranquille. C'est un paysage encore sauvage, cerné de vignes retenant l'agglomération toute proche. Il y a là quelques oliviers aussi, une nature florissante, aux essences méditerranéennes, brouillonne et fantasque, de grands pins rayant le ciel bleu et partout, une lumière incandescente et les champs de blé quadrillant l'horizon. Ces terres qui défient le Ventoux, venées d'argiles et de calcaires rappelant la Bourgogne, sont l'autre terrain de jeu de Jean-Marie Guffins. Les vins sont le contraire de l'homme, me dit-il. Ils expriment une compensation. On lit toute l'angoisse humaine dans un verre de vin. Derrière son caractère impromptu et volontiers blagueur, se cache une nature exigeante, forcenée de travail et de rigueur. Pour ciseler de grands vins, pour peindre les plus belles toiles, poser la couleur où il faut, choisir la bonne texture, les mots justes, il faut de l'intuition, de l'imagination, du rêve mais aussi de l'obstination. Ne jamais renoncer, recommencer chaque jour. Il faut aussi se donner les moyens de son exigence et de sa réussite, poursuit-il. Qu'importe d'où l'on vient, ce que l'on est, son héritage et sa lignée familiale. Suivant sa propre voie, celle qu'il s'est tracée parce que justement, Elle est à l'exacte intersection de son talent et de sa volonté. Il n'a cure des modes et des impératifs. Jean-Marie Gufens n'écoute que son intuition et bien souvent que lui-même. Je vendange tard quand les autres vendangent trop tôt et je vendange tôt quand les autres vendangent trop tard. Libre penseur, disciple de l'action, il réfute aussi toute labellisation biologique mais pourfend les traitements de synthèse. On fait tout et on ne revendique rien. Mes terres n'ont jamais vu ni de pesticides ni d'insecticides. La nuit, je ne déterre pas mes cornes de vache. La nuit, je dors. Petite pique au passage pour les partisans de la biodynamie et l'une de ses pratiques qui consiste à enterrer de la bouse de vache dans des cornes afin de régénérer le sol. Il y a dans les vins de Jean-Marie Gufin cette même énergie et ce même élan intègre, aucune fausse note, aucun faux semblant. De la matière brute coulée en bouteille, pétrie de longues heures de travail, d'observation, de maîtrise. Une vision esthétique les nourrit, celle de la verticalité, de la forme et du mouvement. Comme une toile de Delaunay ou de Kandinsky, ces vins ajoutent des lignes à la couleur, du relief à la profondeur de champ. Ils évoluent selon l'époque où on les ouvre, comme l'angle d'où on regarde le tableau. Leur précision est une nécessité, une urgence de pureté que rien ne retient. Et Jean-Marie Gufin s'avance comme un ogre et dévore chaque millésime de son ambition captée dans la matière cristalline de ses blancs, élaborant des vins d'imaginaire et d'élan, purs, de parfaite exactitude, intransigeants. Comme cette cuvée Tri de Chavigne 2013, un Mâcon Pierre-Clos incisif, éclatant, coulant comme l'eau de roche et qui, aux prémices de son existence, livrait déjà toute l'énergie et la matière propice à son long vieillissement. Il y a dans les mots comme dans les vins tout le ressenti du mouvement, de la forme et de la couleur. C'est exactement la même chose pour le peintre. Il y a dans une toile de Mondrian ou de Kupka cette affirmation de précision, cette urgence du trait. Chez ces maîtres de l'abstraction qui ouvrent le regard vers l'inconnu, sur le monde cosmique et organique, s'impose une poétique moderne de la couleur. František Kupka retranscrit dans son œuvre, tout au long de sa vie, ce glissement du figuratif vers l'abstrait. La couleur devient pour lui porteuse d'émotions physiques et physiologiques, puis l'instrument d'un dynamisme avant d'éliminer le sujet pour régner seul. Agissant en synchronie avec la musique, elle fonde une morphologie dominée par les verticales et les circulaires. Et Kupka de conclure, dans son essai écrit entre 1910 et 1913, intitulé « La création dans les arts plastiques ». Pour qu'une œuvre soit rythmée, ses moindres parties doivent y concourir, se commander, se solliciter, se répondre l'une à l'autre. Le rythme réside dans les retours périodiques d'analogie, dans la symétrie des lignes et des limites. C'est cette même logique qui est à l'œuvre dans un vin, une symétrie des lignes et des limites qui doit entrer en résonance avec la même analogie que celle des mots choisis pour décrire, mais aussi ne pas tout dire, pour naviguer de la conception formelle jusqu'à l'abstraction. Pour le dernier épisode de cette première saison, il fallait revenir à l'essentiel, la nécessité d'écrire, l'urgence des mots comme des fenêtres pour contrer la brutalité du monde, hurler au lieu de fuir et sentir la terre pencher, ruisseler sous mes pieds. La symétrie, le mouvement, la couleur, des leitmotifs de mon écriture qui, comme dans la peinture, saturent la toile et l'espace. L'espace entre vous et moi, entre le monde et nous. Des mots pour barrer l'horizon et l'empêcher de s'écraser sur moi, comme ces nuées de flamants roses qui, dans l'estuaire de Bombay, font rempart pour braver la tempête. Des mots qui disent le vin, sa couleur, ses nuances, son éclat et sa texture, où il faut être suffisamment précis pour rendre compte de son intention avec exactitude, suffisamment évocateur pour laisser parler l'imaginaire. Et dans le vin comme en peinture, l'exactitude compte autant que l'imaginaire, la forme et le mouvement, jusqu'à l'abstraction qui fond dans un tout ce grand foisonnement. Aux abords de Nerul, à Navi Mumbai, à l'ouest de l'Inde, dans une baie bercée de lumière, les flamants roses se regroupent et s'unissent pour mieux résister à la tempête. Ils forment un essaim, rempart au vent violent, abolissant toute distanciation dans ce cocon protecteur. Ils ne sont pas une abstraction, mais le tableau qu'ils forment peut sembler, pour celui qui le regarde de loin, un heureux enchevêtrement de formes et de couleurs chatoyantes. L'image emprisonne le réel, le met à distance et devient tout entière le tableau, abolissant tout mouvement. Figés sur la toile, les flamants roses ne peuvent plus s'envoler. C'est un grand pan mauve, baigné d'argent, de blanc étincelant, noyé dans les reflets de l'horizon, cassant la lande verte des marais et des hautes herbes. Un tableau que je peux accrocher au mur, pour le regarder dans le silence du soir qui tombe. En attendant, un jour, que ces mêmes flamants déploient leurs ailes et qu'ils viennent transpercer ma fenêtre pour porter jusqu'à moi le souvenir de mes songes, des songes toujours éveillés et qui m'empêchent de dormir.